Audiolib présente Les archives de Rochard. Tome 2, le livre des radieux. Volume 1. De Brandon Sanderson. Traduit de l'anglais par Mélanie Fazi. Lu par Lionel Monnier et Jessica Manceau. Un livre audio enregistré avec le soutien du Centre National du Livre. Pour Oliver Sanderson, qui est né au beau milieu de l'écriture de ce livre et marchait déjà quand je l'ai terminé.
Prologue. Questionné. 6 ans plus tôt. Jasna Colleen feignait de profiter de la fête sans laisser transparaître qu'elle comptait faire assassiner l'un des convives. L'oreille aux aguets, elle traversait la salle de banquet bondée où le vin émoussait les esprits et déliait les langues. Son oncle Dalinar, sous l'emprise de l'alcool, se leva de la haute table pour crier aux Parchendi d'appeler leurs joueurs de tambour. Elokar, le frère de Jasna, se précipita pour faire taire son oncle dont les Aleti ignoraient poliment les vociférations. Exception faite des Soudanes, l'épouse d'Elokar, qui ricanait d'un air guindé derrière son mouchoir. Jasna se détourna de la haute table et poursuivit son chemin. Elle avait rendez-vous avec un assassin et se réjouissait de quitter cette pièce étouffante, empuantie par le mélange de parfums trop nombreux. Un quartet féminin jouait de la flûte sur une plateforme surélevée qui faisait face à la cheminée, mais la musique était depuis longtemps devenue assommante. Contrairement à Dalinar, Jasna attirait des regards insistants. Il la suivait avec la constance des mouches s'accrochant à la viande pourrie, accompagnée de murmures évoquant des bruits d'ailes. S'il y avait une chose que la cour Aleti appréciait encore plus que le vin, c'était les commérages. Tout le monde s'attendait à ce que Dalinar succombe à l'appel de l'ivresse lors des festins, mais la fille du roi qui admettait être hérétique, ça c'était nouveau. Raison même pour laquelle Jasna avait exprimé publiquement ses opinions. Elle longea la grande table où s'agglutinait la délégation Parchendi, qui discutait dans sa langue cadencée. Bien que cette fête soit donnée en leur honneur, et en celui du traité qu'ils avaient signé avec le père de Jasna, les Parchendi ne semblaient pas d'humeur festive, ni même joyeuse. Ils paraissaient nerveux. Mais bien sûr, ils n'étaient pas humains et leurs réactions se révélaient parfois étranges. Jasna aurait voulu s'entretenir avec eux, mais son rendez-vous ne pouvait attendre. Elle l'avait volontairement programmé en plein milieu de la fête, car beaucoup de gens seraient alors distraits par l'ivresse. Jasna se dirigea vers les portes, mais s'arrêta net. Son ombre pointait dans la mauvaise direction. La pièce étouffante, remuante et bruyante, lui sembla soudain très lointaine. Le haut prince Sadeas traversa l'ombre de Jasna, qui pointait distinctement vers la lampe à sphère accrochée au mur tout proche. Absorbée par la conversation avec son compagnon, sa déesse ne remarqua rien. Jasna regarda fixement cette ombre, la peau soudain moite, l'estomac noué, comme lorsqu'elle était au bord de la nausée. Pas maintenant. Elle chercha une autre source lumineuse, une explication. Voyait-elle quoi que ce soit? Non. D'un mouvement léthargique, l'ombre se coula de nouveau vers elle, glissant jusqu'à ses pieds avant de s'étirer dans l'autre sens. Sa tension se dissipa. Mais d'autres avaient-ils vu? Fort heureusement, lorsqu'elle balaya la pièce du regard, personne ne l'observait d'un air horrifié. L'attention des gens était retenue par les joueurs de tambour Parchendi, qui franchissaient la porte à grand fracas pour se mettre en place. Jasna remarqua, songeuse, qu'ils étaient aidés par un serviteur non Parchendi, vêtu d'amples vêtements blancs. Un Chinov? Voilà qui n'avait rien d'habituel. Jasna reprit ses esprits. Que signifiaient ces crises qui l'assaillaient parfois? D'après des contes populaires superstitieux qu'elle avait lus, une ombre rebelle signifiait qu'on était maudit. Elle n'y voyait généralement que des sornettes, mais certaines superstitions prenaient racine dans des faits. L'expérience le lui avait prouvé. Il faudrait qu'elle effectue quelques recherches. Ces tranquilles pensées d'érudite lui firent l'effet d'un mensonge contrastant avec la réalité de sa peau froide et moite et de la sueur qui baignait sa nuque. Mais il importait de se montrer rationnel en toutes circonstances, et pas seulement lorsqu'elle était calme. Elle se força à franchir les portes de la pièce étouffante pour rejoindre le couloir moins animé. Elle avait choisi la sortie du fond, celle qu'utilisaient généralement les serviteurs. C'était, après tout, le trajet le plus direct. Ici, des maîtres serviteurs en noir et blanc s'affairaient à servir leur clarissime. Elle s'y était attendue, mais s'étonna en revanche de trouver son propre père devant elle, en train de s'entretenir à mi-voix avec le clarissime Mérida Samaram. Que faisait donc le roi en ces lieux? Bien que Gavilar Colline soit plus petit qu'Amaram, ce dernier se voûtait en sa présence, car Gavilar parlait avec une intensité tranquille qui donnait envie de se pencher pour mieux saisir chaque mot, chaque sous-entendu. C'était, contrairement à son frère, un homme séduisant, dont la barbe soulignait la forte mâchoire au lieu de la cacher. Il possédait un magnétisme qu'aucun biographe, du point de vue de Jasna, n'était parvenu à capturer. Théarim, capitaine de la garde royale, se tenait derrière eux. Il avait revêtu la cuirasse d'éclat de Gavilar. Le roi avait cessé de la porter lui-même ces derniers temps pour la confier plutôt à Théarim, reconnu comme l'un des plus grands duellistes au monde. Gavilar portait à la place une robe d'un style classique et majestueux. Jasna risqua un coup d'œil par-dessus son épaule, vers la salle du banquet. Quand son père s'était-il esquivé? Quelle négligence! Se réprimanda-t-elle. Tu aurais dû t'assurer qu'il y soit encore avant de sortir. Elle le vit poser la main sur l'épaule d'Amaram et lever un doigt en prononçant d'une voix sévère, quoique étouffée, des mots qu'elle n'entendit pas. Père? Demanda-t-elle. Il se tourna vers elle. Ah, Jasna, tu t'en vas très tôt. Il n'est pas si tôt, commenta-t-elle en s'approchant d'un pas fluide. De toute évidence, Gavilar et Amaram avaient dû se réfugier ici pour s'entretenir en privé. La partie la plus ennuyeuse de la fête commence, celle où les conversations gagnent en volume sonore mais pas en intelligence, sans parler du degré d'ivresse des convives. Beaucoup de gens apprécient ces choses-là. Beaucoup de gens, malheureusement, sont idiots. Son père sourit. Est-ce terriblement difficile pour toi? Demanda-t-il d'une voix douce. De vivre avec nous autres? De subir notre intelligence modérée et nos pensées simplistes? Te sens-tu très seule, Jasna, d'être à ce point unique dans ton génie? Elle accepta la réprimande pour ce qu'elle était et se surprit à rougir. Même Navani, sa mère, ne réussissait pas à avoir cet effet sur elle. Si tu trouvais une agréable compagnie, poursuivit Gavilar, peut-être apprécierais-tu les fêtes. Son regard pivota vers Amaram, qu'il avait longtemps envisagé comme prétendant pour sa fille. C'était hors de question. Amaram croisa le regard de Jasna, puis salua son père à mi-voix et s'éloigna précipitamment le long du couloir. Quelle mission lui avez-vous confiée? Demanda Jasna. Que préparez-vous ce soir, père? Le traité, bien entendu. Le traité. Pourquoi y tenait-il à ce point? D'autres lui avaient conseillé d'ignorer les Parchendi ou de les conquérir. Gavilar avait insisté pour parvenir à un accord. « Je ferais mieux de rejoindre les festivités », déclara Gavilar, avec un geste à l'intention de Théarim. Tous deux remontèrent le couloir en direction des portes par lesquelles Jasna était sortie. « Père ?» demanda Jasna. « Qu'est-ce que vous ne me dites pas ?» Il se retourna vers elle et s'attarda un instant. Il possédait des yeux vert pâle, témoignant de sa haute naissance. Quand était-il devenu si perspicace? Sainte Bourrasque. Elle avait l'impression de ne presque plus le connaître. Quelle transformation saisissante en si peu de temps. Il étudiait Jasna comme s'il ne lui faisait presque plus confiance. Était-il au courant de son rendez-vous avec Lys? Il se détourna sans ajouter un mot et se mêla aux convives, suivi par son garde. Que se passe-t-il dans ce palais? Se demanda Jasna. Elle inspira profondément. Elle allait devoir enquêter davantage. Avec un peu de chance, il n'avait pas découvert qu'elle fréquentait des assassins, mais dans le cas contraire, elle en tiendrait compte. Il comprendrait sans doute qu'il fallait que quelqu'un veille sur la famille, alors que sa fascination pour les Parchendi l'absorbait totalement. Jasna fit demi-tour afin de poursuivre son chemin et croisa un maître serviteur qui s'inclina. Après une courte marche dans les couloirs, Jasna remarqua que son ombre recommençait à faire des siennes. Elle soupira, contrariée, en la voyant attirée vers les trois lampes à fulgiflammes accrochées au mur. Fort heureusement, elle avait quitté la zone la plus peuplée. Il n'y avait ici aucun serviteur pour la voir. « Bon, lâcha-t-elle, ça suffit. » Elle n'avait pas eu l'intention de parler tout haut. Cependant, lorsque ces mots lui échappèrent, des ombres lointaines s'animèrent, nées d'un croisement un peu plus loin. Elle eut le souffle coupé. Ces ombres s'allongèrent et s'épaissirent, puis formèrent des silhouettes qui se mirent à grandir, à s'étirer, à se lever. « Père des tempêtes, je deviens folle. » L'une d'entre elles prit la forme d'un homme noir comme la nuit, quoique parcouru de reflets comme s'il était fait d'huile. Non, d'un autre liquide à la surface duquel flottait de l'huile, qui lui conférait un aspect sombre et irisé. Il s'avança vers elle à grands pas et dégaina une épée. Ce fut la logique, froide et inébranlable, qui guida Jasna. Crier ne lui amènerait pas d'aide à temps, et la ténébreuse agilité de cette créature lui conférait une vitesse qu'elle ne pourrait certainement pas égaler. Elle resta sur place et croisa le regard noir de la créature, ce qui la fit hésiter. Derrière elle, un petit groupe d'entités semblables s'était matérialisé à partir des ombres. Elle avait senti ses yeux posés sur elle au cours des derniers mois. Le couloir tout entier s'était maintenant obscurci, comme submergé par de profondes ténèbres, où il sombrait lentement. Le cœur battant la chamade, le souffle de plus en plus court, Jasna leva la main vers le mur de granit, cherchant à toucher une surface solide. Ses doigts s'enfoncèrent très légèrement dans la pierre, comme si le mur s'était changé en boue. Nom des foudres, il fallait qu'elle agisse. Mais que pouvait-elle donc faire? Devant elle, la silhouette lança un coup d'œil furtif vers le mur. La lampe la plus proche de Jasna s'éteignit. Ensuite, le palais se désintégra. Le bâtiment tout entier se brisa en milliers de petites sphères de verre pareilles à des perles. Jasna hurla lorsqu'elle bascula en arrière dans un ciel obscur. Elle ne se trouvait plus dans le palais. Elle était ailleurs. Un autre lieu, un autre temps, un autre quelque chose. Elle se retrouva seule avec la silhouette sombre et chatoyante qui flottait dans le vide devant elle, rengainant son épée d'un air satisfait. Jasna s'écrasa contre quelque chose, un océan de ses perles de verre. D'autres, innombrables, se mirent à pleuvoir autour d'elle, crépitant comme la grêle lorsqu'elle touchait cet étrange océan. Elle n'avait jamais vu cet endroit. Elle ne pouvait expliquer ni ce qui s'était produit, ni ce que ça signifiait. Elle se débattit tandis qu'elle s'enfonçait dans quelque chose d'impossible. Des perles de verre de tous côtés. Elle ne voyait rien au-delà, et sentait seulement qu'elle sombrait dans cette masse cliquetante, bouillonnante, étouffante. Elle allait mourir, en laissant son travail inachevé, sa famille sans protection. Elle ne connaîtrait jamais les réponses. Non. Jasna s'agita dans le noir et tenta de nager, tandis que les perles roulaient sur sa peau, se glissaient sous ses vêtements, s'infiltraient dans son nez. Ça ne servait à rien. Elle ne pouvait pas flotter dans ce chaos. Elle leva la main devant sa bouche, tenta de créer une poche d'air qui lui permettrait de respirer et parvint à prendre une petite goulée. Mais les perles roulèrent autour de sa main, s'insinuèrent entre ses doigts. Elle s'y enfonçait plus lentement à présent, comme dans un liquide visqueux. Chaque perle, en la touchant, lui communiquait la très faible impression d'un objet. Une porte, une table, une chaussure. Les perles réussirent à s'engouffrer dans sa bouche. Elles semblaient agir de leur propre chef. Elles allaient l'étouffer, la détruire. Non. Non, elles semblaient simplement attirées par elle. Une impression la traversa, non pas tant une pensée distincte qu'une sensation. Elles attendaient quelque chose d'elle. Elle s'empara de l'une des billes, qui lui transmit l'impression d'une coupe. Jasna lui donna quelque chose. Les autres perles les plus proches s'assemblèrent, adhérents comme des pierres scellées par du mortier. L'instant d'après, Jasna ne s'enfonçait plus dans une masse de perles individuelles, mais dans de gros amas de perles accolées pour former une coupe. Chaque perle était un modèle, un guide pour les autres. Elle relâcha celle qu'elle tenait, et les perles qui l'entouraient se dispersèrent. Elle se débattit, cherchant désespérément l'air qui lui manquait. Il lui fallait trouver quelque chose à utiliser, quelque chose qui puisse l'aider, un moyen de survivre. Paniquée, elle ouvrit grand les bras pour toucher le plus grand nombre de perles possible. Un plateau d'argent, un manteau, une statue, une lanterne. Puis quelque chose d'ancien, quelque chose de pesant, lent à réfléchir, et cependant puissant. Le palais lui-même. Dans un effort désespéré, Jasna s'empara de cette sphère et y transféra sa puissance. Les pensées de plus en plus vagues, elle insuffla dans cette perle tout ce qu'elle portait en elle, puis lui ordonna de se soulever. Les perles remuèrent. Un grand fracas retentit lorsqu'elles s'entrechoquèrent dans un concert de cliquetis et de crépitements. Elles évoquaient le bruit d'une vague se brisant sur des rochers. Jasna remonta brusquement depuis les profondeurs, tandis que quelque chose de solide bougeait en dessous d'elle, obéissant à ses ordres. Des perles lui cognèrent violemment la tête, les épaules, les bras, jusqu'à ce qu'elle perce enfin la surface de l'océan de verre dans une explosion, projetant une gerbe de perles dans un ciel obscur. Elle s'agenouilla sur une plateforme de verre faite de petites perles collées les unes aux autres. Elle tendit la main sur le côté, serrant la sphère qui servait de guide aux autres. D'autres roulèrent autour d'elle et prirent la forme d'un couloir au mur orné de lanternes, avec un croisement devant elle. Le résultat était grossier, bien entendu. Il était tout entier constitué de perles. Mais c'était une approximation correcte. Elle n'était pas assez puissante pour reconstituer le palais entier. Elle ne créa que ce couloir sans même le doter d'un toit. Mais le sol la soutenait et l'empêchait de s'enfoncer. Elle ouvrit la bouche en geignant et des perles en tombèrent pour aller heurter le sol dans un claquement. Puis elle toussa, aspirant des goulets d'air bienvenus, et la sueur ruissela sur ses tempes et ses joues pour se rejoindre sur son menton. Un peu plus loin devant elle, la sombre silhouette s'avança sur la plateforme. Elle dégaina de nouveau son épée. Jasna prit une deuxième perle, la statue qu'elle avait devinée un peu plus tôt. Elle lui insuffla du pouvoir, et d'autres perles se rassemblèrent alors devant elle, adoptant la forme de l'une des statues qui longeait l'avant de la salle de banquet, la statue de Talenela Téline, héros de la guerre. Un homme grand et musclé portant une lame d'éclat. Bien que la statue ne soit pas vivante, Jasna l'anima et lui fit baisser son épée de perles. Elle doutait fort que la statue puisse se battre. Des perles rondes ne pouvaient pas former une lame acérée. Cependant, la menace fit hésiter la sombre silhouette. Serrant les dents, Jasna se releva tandis que des perles s'écoulaient de ses vêtements. Elle n'allait certainement pas s'agenouiller devant cette créature, quoi qu'elle puisse être. Elle alla se placer près de la statue de perles, remarquant pour la première fois les étranges nuages au-dessus de sa tête. Il semblait former un étroit ruban de route, long et droit, qui pointait vers l'horizon. Elle croisa et soutint le regard de la silhouette au reflet huileux. Celle-ci la fixa un moment, puis leva deux doigts vers son front et s'inclina, comme en signe de respect, tandis qu'une cape se déployait amplement derrière elle. D'autres silhouettes s'étaient rassemblées. Elles se tournèrent les unes vers les autres, échangeant des murmures étouffés. Cet endroit fait de perles s'évanouit, et Jasna se retrouva de nouveau dans le couloir du palais. Le véritable palais. Bâti de pierre, bien qu'il y fasse désormais noir. La fulgiflamme s'était éteinte dans les lampes murales. Le seul éclairage provenait d'un peu plus loin dans le couloir. Elle s'adossa contre le mur en respirant profondément. « Il faut, se dit-elle, que je consigne cette expérience par écrit. » C'était ce qu'elle ferait, puis elle l'analyserait et y réfléchirait. Plus tard, pour l'heure, elle voulait s'éloigner de cet endroit. Elle marchait d'un pas précipité, sans se soucier de savoir où elle allait, cherchant à fuir ses yeux qu'elle sentait encore en train de l'observer. En vain, Elle finit par se calmer et s'épongeait le visage à l'aide d'un mouchoir. « Chat d'Esmar », songea-t-elle. C'est le nom qu'on lui donne dans les contes pour enfants. Chat d'Esmar, le royaume mythologique d'Espren. Des mythes auxquels elle n'avait jamais cru. Si elle parcourait assez attentivement les livres d'histoire, sans doute y trouverait-elle quelque chose. Pratiquement tout ce qui se produisait s'était déjà produit. C'était là la grande leçon de l'histoire. Et Bourrasque, son rendez-vous! Jurant à mi-voix, elle pressa l'allure. Cette expérience la perturbait encore, mais il fallait qu'elle honore son rendez-vous. Elle descendit donc de 2 étages, s'éloignant de la cadence des tambours Parchendi jusqu'à ne plus entendre que leurs coups les plus nets. La complexité de cette musique l'avait toujours surprise, car elle suggérait que les Parchendi n'étaient pas les sauvages incultes pour lesquels beaucoup les prenaient. À cette distance, la musique présentait une similitude dérangeante avec l'entrechoquement des perles de cet autre lieu. Elle avait volontairement choisi cette partie isolée du palais pour rencontrer Lys. Personne n'entrait jamais dans cette suite de chambres d'amis. Un homme que Jasna ne connaissait pas se prélassait devant la porte. Elle en conçut un certain soulagement. Il devait s'agir du nouveau serviteur de Lys, ce qui signifiait que celle-ci n'était pas repartie malgré le retard de Jasna. Elle se calma, adressa un signe de tête au garde, une brute védaine à la barbe mouchetée de roux, et pénétra dans la pièce. Lys se leva de la table située dans la petite pièce. Elle portait une robe de servante, décolletée, bien entendu, et aurait pu passer pour Aleti, ou védaine, ou bavane. Tout dépendait de la partie de son accent qu'elle choisissait de mettre en avant. Ses longs cheveux noirs, qu'elle portait détachés, et sa séduisante silhouette charnue attiraient l'attention de la meilleure manière qui soit.
« Vous êtes en retard, clarissime !» déclara Lys.
Jasna ne répondit pas. Elle était ici l'employeuse et n'avait pas à fournir d'excuses. Elle déposa quelque chose sur la table près de Lys. Une petite enveloppe scellée à la cire de charançon. Jasna posa 2 doigts dessus et hésita. « Non. » C'était une manœuvre trop hardie. Elle ignorait si son père avait conscience de ce qu'elle était en train de faire, mais, même dans le cas contraire, il se passait trop de choses dans ce palais. Elle ne voulait pas ordonner un assassinat avant d'être totalement sûre.